Et la matinale se poursuit avec vous, Ludofrène, le témoignage du jour.
Olivier Giroud a marqué son 5e but de la saison en Ligue des Champions hier soir lors de la qualification en demi-finale de Milan à Naples. Mais si je parle de cette figure du football français, ce n'est point sous l'angle de ses performances sportives, du moins sur cette antenne qui n'est pas spécialisée en la matière, comme vous avez pu vous en apercevoir. Non, Olivier Giroud est l'un des joueurs qui a librement accepté de parler de sa foi chrétienne. Et le magazine Jésus, produit par les éditions en première partie, lui avait d'ailleurs confié la direction éditoriale de son 3e numéro. Le joueur de foot, ce livre sans tabou, raconte comment sa vie spirituelle l'inspire au quotidien et jusque dans les stades. Il est aussi accompagné, il faut le savoir, par un aumônier, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Joël Thibault est aumônier du sport, pas que dans le football. Il officie aussi dans d'autres sports collectifs et aussi dans des sports individuels comme les sports de combat. Le sportif est une personne fragile qui doute facilement d'elle-même et a besoin de se rassurer. Alors, il n'est pas en contact avec la mort comme les aumôniers militaires, mais on peut se poser la question d'ailleurs de savoir ce qui les rapproche et de ce qui les distingue. Ce pasteur protestant, Joël Thibault, est lui-même ancien footballeur amateur et il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Joël Thibault.
Bonjour.
Aumônier du sport, c'est la même chose qu'aumônier des armées?
Il y a une similitude, effectivement, sauf que ce n'est pas encore agréé par un ministère, parce que les clubs sont privés et indépendants, et les fédérations aussi assez autonomes. Celle-là, c'est plus dans le cadre des organisations internationales, comme le CIO, ou les championnats du monde d'athlétisme ou para-athlétique, ou le monde du handisport, qui accréditent des aumôniers en fonction des sollicitations qui sont faites sur des grandes compétitions. On est là pour tous les sportifs, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur nationalité.
Vous pouvez suivre des musulmans, des bouddhistes, des catholiques?
Toute personne, comme un aumônier des armées qui finalement va accompagner les militaires sur le front, pour aussi être avec eux à la caserne. Bah nous, on peut être là dans leurs hôtels, dans leurs préparations, sur les stades, et puis aussi en compétition. C'est la même chose, et quelle que soit la croyance, nous, on est là pour proposer une écoute bienveillante et aussi répondre aux questions de quête de sens, questions existentielles qui peuvent se poser et pour lesquelles ils n'ont pas forcément toujours un vis-à-vis, et où dans notre culture ça reste encore un peu tabou, et où certains entraîneurs ou dirigeants de clubs ont du mal à répondre. Ils ne sont pas experts ni spécialistes de ces questions-là, et donc c'est bien qu'il puisse y avoir des aumôniers pour répondre à la question spirituelle.
Mais vous qui êtes pasteur protestant, vous pouvez donc vous occuper d'un joueur musulman?
Je peux être en dialogue avec un joueur musulman. Je ne vais bien évidemment pas lui faire les rituels musulmans ou lui faire la lecture du Coran, mais je peux être en dialogue sur ce que sa foi lui apporte, quelle différence il peut y avoir. En fait, je suis là pour répondre à ses questions. S'il a des questions et que même il me demande la prière chrétienne, je vais accepter et je vais le faire. On est là pour répondre aux besoins des personnes et pas non imposer notre croyance. C'est une vocation. Après, c'est sûr que je ne me suis pas levé un matin en me rasant, en me disant « je vais devenir aumônier du sport ». Non, par contre, j'ai eu cette passion du sport depuis le plus jeune âge. Après, le sport a eu une emprise très forte sur ma vie, sur mon identité. Ça a été une addiction. Ça ne me rendait pas heureux et j'ai cherché des solutions à droite et à gauche, comme je l'explique dans le livre. Et finalement, à un moment donné, j'ai crié à Dieu. Et le seul qui m'a donné la joie de vivre, c'est Dieu. Et à partir de là, il y a eu un cheminement où j'ai découvert que Dieu m'avait donné un corps avec des capacités, des talents, et que je devais les utiliser pour une plus grande gloire que la mienne, c'était celle de Dieu. Et ça m'a amené à rencontrer, à côtoyer de nombreux sportifs qui étaient en quête de spiritualité, qui pour certains vivaient une foi chrétienne, dont un de mes mentors était un ancien joueur professionnel du SCO d'Angers, et qui a été mon grand frère dans la foi et qui m'a transmis sa passion. Et si je suis là, je lui dois beaucoup parce qu'il a investi dans ma vie. Et à mon tour, j'ai investi mon temps, mon énergie et mon amour dans la vie de d'autres sportifs.
À quel moment, Joël Thibault, avez-vous crié vers Dieu?
J'avais 19 ans. Ouais, en pleine crise d'identité. Je pensais que je faisais tout bien pour réussir dans le sport. Bonne hygiène de vie, je fumais pas, je buvais pas d'alcool à l'excès. Je respectais les rythmes de sommeil, bonne alimentation, tout ça. Et finalement, ça n'a pas payé pour obtenir le contrat que j'espérais dans le foot. J'avais des propositions en tant qu'entraîneur où ça marchait bien, mais j'étais pas heureux. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire comme les autres de ma génération qui boivent, qui font la fête, des excès. Et ça m'a rendu encore plus malheureux. Et c'est là où j'ai crié à Dieu, parce que c'était mon seul espoir. À ce moment-là, en plus, j'avais une relation familiale très, très compliquée avec mes parents. Il y a des blessures qui ont été amplifiées par le phénomène des résultats sportifs. Et ce qui fait que j'étais quelqu'un de très amer, très, très triste et très seul. Donc ce cri du cœur, c'était un peu mon dernier espoir.
Les sportifs qui font appel à vous le font en toute confidentialité ou bien ça se sait ?
À la base, ça se fait en toute confidentialité. Avec Olivier Giroud, ça s'est su parce que lui en a parlé et qu'il a voulu assumer sa foi et le fait qu'il était accompagné, ce qui manque une certaine forme de vulnérabilité et d'humilité. Mais il y a beaucoup de grands champions que j'accompagne qui peuvent être plus célèbres qu'Olivier et où ça ne se sait pas, parce que c'est un peu comme dans les évangiles, Nicodème qui vient tard le soir dans la pénombre voir Jésus, et Nicodème ne se découvrira qu'au moment de la crucifixion de Jésus, plutôt dans la mise au tombeau. Donc moi je respecte ça, je respecte la confidentialité, et si je pense que ça fait des années que je dure dans cette vocation, c'est que je respecte ce principe.
Vous posez la question d'ailleurs, le sport et la foi sont-ils compatibles ?
Comment on peut vouloir battre quelqu'un alors que le Christ nous enseigne à s'aimer les uns les autres, à ne pas se mettre au-dessus des autres ? La compétition fait partie des règles du jeu, du sport, comme dans tout métier. Mais c'est de le faire avec les bonnes motivations. C'est pas parce que j'ai un désir de donner le meilleur de moi-même que je ne peux pas le faire en ayant de l'amour dans le cœur et en respectant la personne qui est à côté de moi. C'est comme dans tout milieu professionnel. On peut vouloir écraser les autres, marcher dessus, que ce soit dans le monde de la radio, de la télé, partout. Mais si on n'a pas l'amour, ça sert à rien, quoi. Donc dans le sport, c'est la même chose.
Joël Thibault, les joueurs de foot en particulier ont des rituels religieux sur le terrain, ou semblent en avoir, ou en tout cas ils ont des rituels. Qu'est-ce que vous leur dites là-dessus ?
C'est leur manière d'exprimer leur joie, leur reconnaissance. Des fois, il peut y avoir une forme de superstition dans le sens j'ai marqué, Dieu, je te remercie. Si je ne le fais pas, peut-être que le sort va me tomber dessus la prochaine fois. Mais certains qui lèvent les mains au ciel sont dans des très mauvaises postures le soir dans certaines boîtes de nuit parisiennes. Après, ça, c'est chacun avec sa liberté de croyance. Hein. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Nous, si on nous pose des questions par rapport à ça, on va orienter vers les textes bibliques. Je pense que c'est pas Dieu les aime pas moins qui marque un but ou qui n'en marque pas. Que la relation avec Dieu, c'est plus que les performances sportives. Et puis que Dieu, ce qu'il veut, c'est l'intimité, c'est le cœur. Et il y a un texte qui est très célèbre, qui est dans l'Ancien Testament, qui dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice.
L'affaire Pogba, Joël Thibault, quel est le visage du football que cela montre ? C'est juste une affaire de règlement de compte familial ?
Non, c'est plus large. Le cœur de l'affaire Pogba et pourquoi on en parle, si c'était qu'un règlement de compte familial, ça serait passé vite. Si c'était qu'une affaire d'extorsion de fonds, ça aurait fait un peu de une. Mais là, le gros problème, c'est qu'il aurait marabouté Kylian Mbappé. Et donc là, on touche à la nouvelle icône du foot français. Et là, ça nous montre. Donc on peut parler au conditionnel jusqu'à la preuve du contraire, mais je ne serais pas étonné que cela ait été fait, puisque j'ai eu d'autres cas avérés.
De maraboutage.
De maraboutage, de sorcellerie. C'est qu'on est prêt à tout pour réussir. Et on est prêt à vendre son âme quelque part. Et Jésus nous interpelle là-dessus. On dirait, à quoi servirait-il à un âme de posséder le monde, de gagner tous les trophées, s'il perdait son âme? Et donc là, on est dans du trafic, dans ce monde occulte, où ça rigole pas et c'est très dangereux. Et Paul Pogba le paye à ses dépens, puisque est-ce qu'il est encore un joueur de football aujourd'hui? Je crois pas qu'il ait fait beaucoup de matchs depuis 18 mois. C'est compliqué. Et en plus, il aurait, voilà, à travers ça, fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc là, ça nous montre toute la noirceur. Donc, d'où l'importance pour Paul Pogba de découvrir l'évangile de la grâce et du pardon, parce que je crois qu'il a le droit à une deuxième chance comme tout le monde, mais il faut pouvoir reconnaître ses torts et s'en repentir. Pour l'instant, il est dans le déni. Donc, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Mais s'il y a un appel, c'est au changement et à venir à Christ.
La controverse au sujet du ramadan dans le foot et des pauses que des joueurs désirant respecter le rituel demandent, comment la FFF a statué sur le sujet?
Je pense que chacun est libre de faire ramadan, carême, jeûner, comme il veut. Chacun doit connaître son corps, ça, on doit respecter ça. Maintenant, je pense que la décision de la FFF me semble juste sur cette question de neutralité. Une religion ne doit pas imposer aux autres un temps mort. Et donc, en fait, on est sur des questions de quelques minutes. Déjà, un joueur qui fait le ramadan, il a le droit de boire à n'importe quel moment pendant le match. Il a le droit de manger à n'importe quel moment. Donc, c'est un faux problème. C'est juste qu'on voudrait imposer une pause supplémentaire. Et puis, souvent, c'est une histoire de quelques minutes. Est-ce qu'il ne peut pas attendre 45 minutes de plus pour manger davantage dans le vestiaire? Et est-ce que Dieu va le punir? Enfin, après, on est sur tout un rapport à la religion. Ce sont aux théologiens musulmans de parler. Mais là-dessus, Jésus a beaucoup de choses à dire sur le jeûne. Il dénonce le jeûne qui est des fois un peu hypocrite aussi. Et puis voilà, le jeûne, c'est une question d'intimité avec Dieu. C'est de libérer du temps pour de l'intimité avec Dieu. Donc, j'aimerais que ces joueurs qui font le carême ou le ramadan ou autre nous parlent de leur intimité avec Dieu quelque part. Qu'est-ce que ça change dans une transformation de vie intérieure plutôt que de nous parler des signes extérieurs?
Alors, il y a le jeûne et puis les jeunes, parce que vous avez affaire quand même à un public très jeune.
On rentre dans les centres de formation à partir de 14 ans, 15 ans, et après on sort en général à 35 ans. 35 ans, la carrière commence à s'arrêter. On commence à être moins performant aussi. Après, il y a quelques rares exceptions. On va jusqu'à 40 ans. Mais après, il faut aller jusqu'à 65 ans ou plus. Et après, il faut vivre jusqu'à 80 ans.
L'argent,
il y en a beaucoup au PSG. C'est surtout là qu'il faut aller. Mais l'argent, il n'y en a pas dans tous les clubs et pour tout le monde. Et il y a une mauvaise répartition. D'ailleurs, ce n'est pas juste. Les joueurs devraient se syndiquer davantage, faire quelque chose. Parce que dans une même équipe, on veut avoir quelqu'un qui gagne 150 000 euros et un autre qui gagne à peine 3 000 euros. Et pourtant, ils font le même travail, même nombre d'heures. Ils se donnent à fond sur le terrain. Après, il y en a un qui...
En Ligue 1, ça peut être comme ça.
C'est comme ça, oui. Il y a une réglementation des salaires pour un minimum, mais il n'y a pas de plafond maximum. Et au final, il y a des joueurs, c'est arrivé dans certains clubs, qui font du boudi-bouda capricieux et qui ne veulent pas jouer. Et les clubs continuent à les payer gracieusement, et pendant que d'autres qui se donnent à fond n'ont pas d'augmentation de salaire. Donc il y a des niveaux assez injustes, et il ne faut pas regarder qu'à travers les plus grands joueurs comme Léo Messi ou Cristiano Ronaldo.
Non, ça bien sûr, mais quand même, la moyenne en Ligue 1, c'est quand même plutôt des salaires assez confortables.
Mais si on enlève le PSG, on verrait que la moyenne, elle tombe, et puis cette moyenne par rapport à tout ce qui a été sacrifié et sur le fait de la difficulté de se reconvertir derrière, et quand on voit toutes les dépenses qui peuvent être occasionnées par rapport au rythme de vie, parce que c'est des gestions de famille, il faut forcément avoir des gens qui les aident au quotidien. C'est d'autres problématiques. Alors vous me direz, c'est des problématiques de riches, mais souvent ils sont loin de leur famille, il faut qu'ils apportent un soutien à leur compagne, qui sont souvent esseulés et à qui on ne pense pas beaucoup.
Et justement, certains clubs anglais aiment bien partir en stage dans les pays d'Europe de l'Est où les bordels sont malheureusement autorisés. Cette jeune épouse plaisante aujourd'hui sur le fait que son mari l'a trompée plusieurs fois, plusieurs années avant. J'en suis étonné, cela semble banalisé dans le milieu. Lorsque cet homme a découvert l'évangile, il a tout confessé à sa femme. J'ai même été témoin de ses confessions. Il lui a demandé pardon, il a reconnu ses erreurs et cherché à s'améliorer pour son couple. Donc de belles histoires avec des résultats obtenus, Joël Thibault.
Quand l'évangile de Jésus-Christ, qui est une bonne nouvelle, nous rencontre, ça transforme les vies. Malheureusement, cette histoire-là ne se termine pas si bien que ça. Donc il faudrait que les auditeurs aillent creuser ce chapitre. Et c'est des choses qui me choquent, justement, de voir cet homme qui a envie d'être un meilleur mari. Et finalement, il ne retrouve pas cet écho-là chez sa femme. Donc, il y a des choses qui sont très, très bizarres. Maintenant, ça reste... Ces choses qui existent dans le monde du foot, j'aimerais beaucoup faire un documentaire, parce que j'en ai déjà réalisé 4, sur la sexualité chez les sportifs. Et montrer la perversité, mais les égarements, mais aussi la beauté de la relation sexuelle dans le cadre du mariage. Parce que j'y crois beaucoup à ça, à ce que Dieu a prévu initialement. Et souvent, on a eu du mal. Alors, peut-être, je ne vais pas taper... dans une vision peut-être chrétienne, que le sexe était juste fait pour se reproduire, mais il faut relire Cantique des Cantiques. Et c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Donc il faut le vivre tel quel. Et il n'y a pas de mieux, il n'y a rien de mieux que de le vivre dans la fidélité. Et c'est ce que certains sportifs expérimentent avec une nouvelle...
Il y a des couples modèles qui vivent bien l'intensité du football en particulier, mais d'autres comme sports aussi.
Comme partout, dans tous les sports, il y a des... Je vais pas les citer, mais j'ai de l'encouragement, je vois des belles choses. Sinon, je pense que j'aurais arrêté cette vocation, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd d'accueillir les confidences, d'accompagner, de voir les difficultés aussi par lesquelles ils passent. Mais aussi les mauvais choix qu'ils peuvent faire à certains moments de leur carrière, de leur vie personnelle. Et que finalement, on le voit, hein, comme avec le roi David dans la Bible, sur une mauvaise décision, ça a eu un impact considérable sur le reste de sa vie et sur ses enfants. Donc en fait, nos choix ne nous impliquent pas que nous. Donc il faut bien réfléchir. Et un fruit de l'esprit, je crois, c'est la maîtrise de soi. Donc c'est important de le cultiver. Et de développer cette intimité avec Dieu.
Joël Thibault, il y a des joueurs qui vous appellent en urgence parce qu'ils ne sont pas bien, ils doutent d'eux-mêmes, ou vous faites à la fois office d'aumônier, mais de psychologue, de confident, de compagnon, que sais-je encore ?
Oui, effectivement, ils appellent quand...
Avant un match,
quand
par exemple.
Quand c'est période de stress, période de difficulté, de blessure. Ça arrive qu'il y ait, quand il y a cette pression qui monte et qu'ils ne savent pas à qui parler, oui, ils m'appellent. Mais heureusement, il y a aussi quand ça va bien, qu'ils gardent un rythme parce qu'ils ont envie d'étudier la Bible. Donc, ils ne se réduisent pas que à leur performance sportive et que à la vie sur le terrain. Mais encore dernièrement, un joueur me disait ça. Il me disait, tiens, t'as vu, parce qu'on fait des réunions des fois collectives.
Ah, justement, c'était ma question. Est-ce qu'ils se réunissent
Oui, ils se réunissent entre eux. Le but, c'est qu'ils apprennent à se connaître pour qu'ils ne soient pas des adversaires, mais des frères dans la foi, des frères en Christ ou sœurs sur le terrain. Et puis qu'ils aient ce respect. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le choix de cette photo sur la couverture, elle est très symbolique pour moi. C'est la vision que j'attends du sport. C'est avant tout la fraternité, la solidarité, parce que en fait, sur cette photo, ce sont des joueurs des deux équipes qui vont s'affronter, qui prient avant le match,
et il y a des
titulaires et des remplaçants. Donc c'est très fort dans l'unité, et on est ensemble pour à la fois produire un spectacle, mais aussi rendre gloire à Dieu, et que le meilleur gagne, et la volonté est entre les mains de Dieu. Et moi, je trouve ça très 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 fort, et c'est ce que j'attends du sport, qui des fois a allé trop loin. L'homme est capable de tout, du meilleur comme du pire, et moi je veux travailler pour qu'il y ait de plus en plus de meilleurs hommes et femmes sur les terrains, avec l'aide de Dieu.
Merci Joël Thibault, ce seront vos dernières paroles. L'aumônier des champions, préfacé par Olivier Giroud, justement, et puis je rappelle que vous êtes aumônier du sport depuis déjà quelques années. 2014, professeur de PS de formation, éducateur de football, membre de l'Église protestante évangélique, et que vous développez depuis 2017, faut-il le rappeler, l'aumônerie du sport en France auprès des clubs et des fédérations en formant de futurs aumôniers. Je vous souhaite une excellente journée.